Et aujourd'hui dans I Love America, on revient sur les fameux swing states, leur rôle, leur importance et leur point de discorde. Et tout cela en compagnie d'André Caspi, il est historien et spécialiste des États-Unis. Et pour le coup, il répond aux questions, cette fois-ci du vrai, du seul, de l'unique Blaise van der Linden.
André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors aujourd'hui, dans notre chronique que nous tenons tous les jours jusqu'au 5 novembre, I Love America, nous allons nous concentrer sur les swing states. Aujourd'hui, pour cette élection, il semblerait qu'il y en ait 7. Alors pour commencer, André Caspi, quel est ce terme de swing states? Quelle est l'importance des swing states dans cette élection?
Bah, tout d'abord, swing state, ça signifie en anglais des États qui peuvent aller soit du côté républicain, soit du côté démocrate, c'est-à-dire des États qui peuvent, en somme, se balancer d'un parti à l'autre. Ça, c'est la traduction en français. Alors, il y a en principe 7 swing states sur les 50 États que comptent les États-Unis. Parce que si vous prenez un État comme la Californie, qui dispose de 54 grands électeurs sur 538, il est évident que on sait à l'avance que ces 54 électeurs seront démocrates, parce que la Californie est à majorité démocrate. Si vous prenez le cas du Texas, la majorité sera républicaine, parce que là, c'est l'inverse de la Californie, c'est une certitude, le Texas votera républicain. Alors, vous avez comme ça à peu près 43 États dont les résultats sont à peu près certains. Mais il y en a 7 qui, eux, présentent l'incertitude. Alors, c'est le cas de l'Arizona, c'est le cas de la Géorgie, c'est le cas du Michigan, du Nevada, de la Pennsylvanie, du Wisconsin et de la Caroline du Nord. On peut y ajouter l'Ohio, si vous voulez, ça fait 8. Donc, ces États-là ne sont pas complètement certains de voter d'un côté ou de l'autre. Et le choix que fera la majorité des électeurs dans chacun des États pourra, en somme, déterminer le résultat final, c'est-à-dire faire pencher la balance, soit du côté de Donald Trump, soit du côté de Kamala Harris. C'est pour ça qu'on appelle ces États des swing states, puisque ce sont des États qui peuvent en effet aller dans un camp ou dans l'autre, suivant bien sûr les résultats de la consultation électorale.
Ces États sont-ils des États qui possèdent des grands électeurs, comme on les appelle, et un nombre important de grands électeurs?
Chaque État dispose de grands électeurs. Si vous prenez, alors, le total, c'est 538 grands électeurs pour le collège électoral qui désigne le président. 538. Par exemple, l'Arizona compte 11 grands électeurs, le Michigan 15, la Pennsylvanie 19. C'est-à-dire qu'au fond, ce ne sont pas des États qui, pour chacun d'entre eux, vont envoyer un grand nombre de grands électeurs, mais à partir du moment où la bataille est extrêmement serrée entre les deux candidats, il est évident que le choix de ces États sera déterminant, puisque ça entraînera pour l'un ou pour l'autre la majorité des grands électeurs et pour l'autre, bien sûr, la défaite.
Vous avez cité les sept swing states en ajoutant l'Ohio qui pourrait être considéré comme le huitième. Ce sont souvent les mêmes États qui sont considérés comme swing states ou ça change d'élection en élection?
C'est difficile à dire, c'est difficile de répondre à cette question, parce que ça dépend évidemment des États. Si vous prenez par exemple le cas du Michigan, le Michigan compte 15 grands électeurs, mais aujourd'hui, au sein de cet État, il y a une communauté musulmane qui d'habitude vote démocrate, mais qui cette fois-ci hésite, précisément parce que elle conteste la politique de Joe Biden et de Kamala Harris à l'égard du Moyen-Orient. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Si vous prenez, par exemple, le cas de la Pennsylvanie compte 19 grands électeurs. En 2016, elle a penché du côté de Donald Trump. Mais en 2020, c'était du côté de Joe Biden. Et à chaque fois, c'est par très peu de voix, c'est-à-dire c'est 1% ou 2% du suffrage qui fait que la majorité va dans un camp ou dans l'autre. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile de prévoir ce que fera chacun de ces swing states, mais il est évident, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est-à-dire aujourd'hui, mercredi, il est évident que il y a une répartition des swing states entre Trump et Harris qui est à peu près égale. Alors, sauf que 7 divisé par 2, ça fait 3,5. Mais si on dit que, par exemple, Kamala Harris a 4 swing states et puis Trump 3, ou l'inverse, c'est ce qui pourrait, en somme, déterminer le résultat final.
Alors, autre sujet que nous souhaitions aborder dans cette chronique, André Caspi, c'est le sort des États oubliés, comme on les appelle. On pense par exemple à la Caroline du Sud ou à la Louisiane. Quelle est la situation là-bas et ont-ils un rôle à jouer dans ces élections, un rôle majeur?
Oui, bien sûr, ils ont un rôle majeur. Chaque État tient un rôle majeur parce que il est évident que si un État traditionnellement républicain décide cette fois-ci de voter démocrate, c'est un déséquilibre qui s'établit. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de la Géorgie, par exemple, qui est un swing state, les 16 grands électeurs ne sont pas acquis aux républicains ni aux démocrates, ils sont en balance. Jusqu'à maintenant, la Géorgie votait plutôt républicain. Si vous prenez le cas du Michigan, bon, Michigan généralement vote plutôt démocrate, mais comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, il pourrait y avoir des défections au sein de l'électorat démocrate et par conséquent donner la majorité aux républicains. Ce qui fait que, en fin de compte, cette élection est extrêmement serrée. Il est difficile de prévoir le résultat. Et contrairement à ce que vous pensez ou à ce que vous avez dit tout à l'heure, le 5 novembre, nous ne connaîtrons certainement pas le résultat définitif. Parce qu'il faudra compter, recompter les bulletins et tenir compte évidemment de ce qui se passe dans chacun des États et ne pas oublier, parce que ça aussi c'est fondamental, que dans cette consultation électorale, les électeurs ne se contentent pas de choisir le président, mais ils choisissent aussi leurs représentants, ils choisissent aussi leurs sénateurs dans 34 circonscriptions sur 100, ils choisissent aussi des fonctionnaires locaux, c'est-à-dire il y a toute une liste d'élections et toute une liste d'élections qu'il faut contrôler. Il faut compter, recompter et encore compter, et puis subir éventuellement les effets de la contestation qui pourrait venir du côté des vaincus, que ce soit le vaincu démocrate ou le vaincu républicain.
Pour finir, vous avez parlé de ce fameux compte. Lors de la dernière élection, ça avait créé un réel drame, notamment via l'expression "Stop the count" de Donald Trump. Il a compris la leçon cette année?
Ah, Donald Trump est prêt à contester les résultats s'il perd. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'avocats qui sont sur les starting blocks, qui sont prêts à intervenir dans les différents États pour contester les résultats si les résultats sont défavorables à Donald Trump. Alors, je ne sais pas quelle sera exactement l'attitude de Kamala Harris dans le cas où elle ne serait pas le vainqueur. Mais en tout cas, je peux vous garantir que si Trump n'est pas le vainqueur dans les jours qui suivent le 5 novembre, eh bien, on n'en aura pas fini avec les contestations et peut-être même les violences qui se manifesteront en faveur de Donald Trump.
André Caspi, je rappelle que vous êtes historien, spécialiste des États-Unis. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. À bientôt.
Au revoir.
Et voilà donc I Love America. Vous en savez plus maintenant sur le système électoral américain et donc les swing states aujourd'hui. Retour d'I Love America demain matin, bien sûr, à 7h45.